Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu, rendez-vous consacré à la draft NFL 2024 et notamment au choix de chaque équipe, hein, un jour une pastille, pour s'intéresser donc aujourd'hui plus spécifiquement au choix des Houston Texans, équipe qui a été très active, c'est le moins qu'on puisse dire ces dernières semaines. Hein. Niti, on va développer ça dans quelques minutes et justement Niti Niasimong est avec moi, salut Niti.
Salut Greg, salut à tous. Houston qui nous a bien surpris en 2023 avec CJ Stroud et toute sa bande et aussi qui ont fait, comme tu l'as dit, une free agency très convaincante en espérant donc que Nick Caserio et DeMeco Ryans continuent la belle histoire qu'ils sont en train d'écrire.
Exactement. Alors du coup, c'est même au niveau des choix de draft, hein, puisque c'est principalement ce qui nous intéresse. Forcément, vous le savez, il y a également une intersaison extrêmement agitée qui redistribue aussi un petit peu les cartes, hein, des choix qu'on va évoquer aujourd'hui. Hein. Stephon Diggs est donc arrivé en provenance de Buffalo contre un deuxième tour notamment de 2025. Donc ça ne heurte pas, on va dire, les choix qui sont en poche du côté du Texas pour cette campagne-là, même s'il y avait déjà deux premiers tours de draft qui avaient été échanger le premier à Minnesota le cadre de ce qui avait été comment dire des choix qui ont été récupérés massivement par les Vikings dans ce premier tour. Il y avait le 27e choix également qui avait été récupéré via les Arizona Cardinals. Ça, c'était par rapport au trade de Paris Johnson, je crois, la saison dernière.
C'est ça, ouais.
Paris Johnson, j'avais vu Arizona monter du 12e au 6e choix. Donc, il y a quand même trois choix dans les trois premiers tours, même s'il n'y a pas de premier tour de draft à proprement parler. On a quand même un 42e et un 59e choix, donc qui représentent les sélections du deuxième tour, et le 86e pick, qui sera donc le choix du troisième tour, acquis en provenance des Philadelphia Eagles. Alors, je n'ai plus la contrepartie, la raison exacte de pourquoi ils avaient récupéré ce choix en provenance de Philadelphie. Sans doute un échange de pics de draft, comme ça se fait énormément. Mais voilà, on ne va pas trop rentrer dans le détail non plus. Mais en tout cas, toujours est-il qu'en étant extrêmement actif, Nick Caserio arrive à récupérer un minimum de choix. On va donc développer tout ça. Niti, ses sélections des Houston Texans. Et on commence donc avec ce deuxième tour et ce 42e choix. Stephon Diggs est arrivé dans le Texas et pourtant on a choisi de rester dans le secteur offensif avec notamment une nouvelle cible pour CJ Stroud.
Bah, une nouvelle cible, alors vous allez me dire, bah non, on est déjà bien fourni, hein, en termes de cible. On a Nico Collins, on a Tankdell. Bon, Tankdell, on ne sait pas trop si dans quelque forme physique il va revenir après sa blessure de fin de saison dernière. Mais Dalton Schultz vient d'être prolongé. Mais derrière lui, il n'y a pas forcément grand monde. Alors j'aimais beaucoup, hein, Brevin Jordan, hein, lors de sa sortie de Miami, Florida. Il y a Tigan Quitoriano, mais bon, voilà, on va dire que ça ne vaut pas la sélection qu'on va faire donc aujourd'hui à ce poste-là avec le deuxième tour, parce qu'il vaut un deuxième tour et pourrait être un premier tour si jamais à ses côtés il n'y avait pas des Adonai Mitchell, des Xavier Worthy, encore des Jordan Whittington du côté de Texas. On reste donc dans le Texas avec Jatavion Sanders. Donc le tie-end qui est imposant, grand, qui a un bon arme de tracé, hein, pour un tie-end, hein, on l'a vu en tout cas à Texas, qui est aussi une vraie menace en yard après réception. Pour moi, c'est un joueur vraiment sous-coté dans cette draft. Et une nouvelle fois, si les Texans font un choix comme Jatavion Sanders, moi je parlerai de bonne affaire, de bonne pioche, en tout cas, comme on dit, un style du côté des Texans, parce que c'est peut-être pas un poste d'un besoin vu comme ça et vu la profondeur poste de tight end, mais c'est une nouvelle cible de choix pour CJ Stroud.
Oui, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a envoyé un message clair avec l'arrivée de Stephon Diggs du côté de Houston, c'est qu'on s'est dit, OK, on a fait une free agency qui est extrêmement animée, on a ajouté pas mal de profondeur malgré tout. Alors on pourra dire qu'éventuellement sur tel ou tel poste, c'est un peu moins reluisant. La ligne offensive, par exemple, on sait que c'était forcément un secteur qui pouvait être assez considéré, mais je trouve que quand même, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajouts dans ce secteur-là, donc c'est pas non plus quelque chose d'aussi problématique. Que ça, hein, même si voilà, l'amas de biens ne nuit pas parfois. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que en plus, ça peut permettre, si tu veux vraiment faire en sorte que CJ Stroud progresse encore plus, lui rajouter un receveur de la cabine Stephon Diggs, un running back aussi efficace en sortie de backfield que peut l'être Joe Mixon, plus un Jatavion Sanders qui en effet a un profil extrêmement polyvalent. Et qui, malgré tout, même si c'est peut-être là un petit peu aussi son bémol et ce qui l'a fait un petit peu reculer dans la hiérarchie globale, c'est pas le tight end qui bloque le mieux, mais il a quand même cette capacité de le faire. Il y a un système offensif qui faisait que bah, c'est pas forcément ce qu'on lui demandait le plus. Il y avait un autre tight end qui pouvait notamment le faire un peu plus que lui. Mais voilà, on est vraiment sur du profil de ces tight ends un petit peu modernes qui sont en effet capables d'être des vrais receveurs massifs plein centre. Mais qui peuvent malgré tout apporter un minimum de protection. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que sans forcément aller sur la ligne offensive dès ce deuxième tour, eh ben, tu vas chercher un joueur qui est à la fois une cible pour CJ Stroud et qui peut permettre à cette attaque de Houston d'être vraiment une machine à yards permanente et en même temps de protéger efficacement ton quarterback du futur. Donc c'est vraiment un choix où je me dis que sur les deux tableaux, ça peut être extrêmement bénéfique pour Houston à moyen long terme. On peut passer au deuxième choix, du coup, des Texans avec le 59e choix qui va peut-être en laisser certains sceptiques. Mais c'est pas grave, c'est assumé. Et on part sur la défense, Nitti, et sur la ligne défensive avec là encore un profil pardon, extrêmement intrigant.
Oui, alors du côté de la ligne défensive, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés du côté des Texans. Hein. Alors il y a Daniel Hunter, mais c'est plus un pass rusher. On a Foley Fatukasi qui est arrivé des Jacksonville Jaguars. On a Denico Autry qui est tout de même arrivé des Tennessee Titans. On a Tim Settle. On a même Mario Edwards qui est arrivé. Voilà, on a fait un peu le tour. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut impacter, on va dire, un attaquant parmi ces quatre-là. Et en plus, Denico Autry, c'est plus un defensive end qu'un defensive tackle. Donc, aux côtés de Fatukasi, finalement, il n'y a pas grand-chose, hein, sans manquer de respect aux joueurs que je viens d'évoquer. Donc, c'est pour, en fait, on va dire, faire de la pub pour ce joueur, parce que malheureusement, à LSU, il n'a pas forcément été à son avantage lors de la saison. Lors du process combine, il a peut-être un peu fait monter sa cote, mais c'est le potentiel qu'on va viser avec ce joueur-là. C'est Mason Smith, donc le defensive tackle de LSU. Il a des mains quand même très actives, mais c'est surtout un monstre physique. Voilà, parce que quand on va le voir en NFL les dimanches, on va le voir. Quand il sera sur le terrain, on va le voir. En tout cas, il a un physique un peu hors norme pour ce poste-là, peut-être le meilleur physique de la QV à ce poste. Mais pourtant, dans l'usage de, on va dire, de ses mains, dans la capacité aussi agile au niveau des pieds, ça reste encore à polir.
Ah, c'est
Mais
moins
il
qu'on
a le
puisse dire. Ouais.
potentiel. Ouais, il a le potentiel. Et malheureusement, en 2022, il s'est fait les croisés. Et là, en 2023, il a essayé de retrouver son niveau, mais on ne peut pas retrouver ses capacités physiques en un an. Peut-être que Houston, si jamais il est sélectionné par Houston, va l'exploiter du mieux. Et DeMeco Ryans, il aime les profils comme Mason Smith. Il peut faire penser à Rick Armstead.
Il peut faire penser à Rick Armstead, tout à fait. Il y a des similitudes, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que, en effet, c'est un profil qui est très polarisant et pour certains, ça pourrait apparaître un petit peu comme un reach, hein, donc un joueur sélectionné beaucoup plus haut que la position à laquelle potentiellement on peut l'attendre. Hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le voient plus vers le troisième tour que vers le deuxième. Après, c'est un profil qui est tellement atypique et tellement athlétique que je ne doute pas qu'il y ait des équipes qui peuvent entre guillemets, le surdrafter, c'est-à-dire vraiment se dire, il nous faut ce joueur-là, et nous, on va faire le maximum pour faire en sorte de le développer. C'est un joueur qui a eu en effet une trajectoire très particulière du côté des LSU. Il y a l'aspect blessure, en effet, notamment qui a pourri toute son année 2022. Il y a aussi les changements perpétuels de coach en défense du côté de Louisiana State où il y a eu un nombre incalculable de changements dans l'organigramme, notamment sur la ligne défensive, et qui forcément, bah, au moment d'apprendre, de se perfectionner un peu sur les différents fondamentaux de la position, bah, l'ont pas forcément aidé. Certains diront que c'est moins prégnant, par exemple, chez ses deux collègues, Mekhi Wingo et Jordan Jefferson. Mais Wingo et Jefferson sont des transferts que ne sont pas Mason Smith. Donc, ils ont peut-être aussi un petit peu moins pâti de cette situation un petit peu ubuesque du côté de la Louisiane ces dernières années. Donc, voilà. Et c'est sûr que ces lacunes, on dira techniques, elles peuvent difficilement être occultées. Après, c'est vrai que tu le disais, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Denico Autry qui est en effet un defensive end de formation, mais qui a quand même pas mal pris en masse au fil des années et qui peut parfaitement s'incorporer sur l'intérieur de la ligne. Je pense que ça va vraiment être la référence en termes de pass rush sur l'intérieur du premier rideau. Et avoir un joueur comme Mason Smith à former à ses côtés justement pour préparer la suite, ça ne me paraît pas forcément quelque chose de déconnant quand on sait que Mason Smith est peut-être la principale, un des joueurs les plus aguerris, je vais y arriver, en termes de pass rush. Sur cette classe de la main intérieure. Il y en a beaucoup, entendons-nous bien, mais en tout cas, c'est vraiment un point sur lequel on peut se dire qu'il y a un gros potentiel. Donc là encore, tu te dis que techniquement, sur le papier, tes defensive tackles titulaires, tu les as, hein, potentiellement. Moi, je dis ça peut être du Autry Settle, peut-être dans une moindre mesure, un Fatu Casey. Mais voilà, si tu as un Mason Smith qui s'intègre un petit peu plus dans la rotation pour vraiment être développé au fur et à mesure et devenir enfin cette menace que beaucoup en attendaient du côté du college football, ça peut être un pari à tenter du côté de Houston dans la même lignée que peut être un Jadeveon Sanders sur l'aspect offensif du terrain. Donc voilà, un joueur à qui on peut reprocher certaines lacunes un petit peu rédhibitoires, mais qui peut apporter beaucoup plus d'explosivité et rendre cette équipe vraiment dangereuse.
Juste pour terminer sur Mason Smith, c'est vrai qu'à LSU, c'était plutôt lui qui était visé par les joueurs des lignes offensives pour une prise à deux. Donc, ses statistiques ne sont pas vraiment à prendre on va dire, pour argent comptant. Voilà. On va dire que vraiment, le but, c'est vraiment de regarder aussi le nombre de pressions qu'il a mis tout au long de sa carrière universitaire. Et lors de sa première saison, il en a mis énormément. Voilà. Donc, alors que c'était un joueur de rotation. Là, je me dis, en NFL, aux côtés
Oui, ce sera
d'Adenico
peut-être pas le
Autry,
joueur
ce
sur
sera
lequel tu
pas
vas mettre le
voilà,
plus de pression non plus.
et exactement. Mais par exemple, Fatu Kassi, c'est plus un joueur contre la course, et c'est pareil pour Edwards et Settle. Donc c'est pour ça qu'aux côtés d'Adenico Autry, il peut peut-être perfectionner ses mouvements en termes de pass rush.
C'est ça, et il faut dire aussi ça par rapport, pour terminer là-dessus, c'est qu'à LSU, le pass rush, notamment l'année dernière, n'était pas dingue. Là,
Non.
potentiellement, sur le papier, tu te retrouves avec Will Anderson et Danny Hunter. Donc, je veux dire, là, en effet, tu ne peux pas te permettre de mettre tous tes œufs dans le même panier en essayant de bloquer le grand gaillard plein centre. Il va falloir que tu choisisses quelque chose, et à ce jeu-là, Mason Smith peut en effet tirer son épingle du jeu, ou en tout cas progresser un petit peu plus rapidement que ce qui était attendu au préalable. On passe au troisième joueur du côté de Houston. Là encore, un mini pari au troisième tour. Avec c'était quoi, 89e? J'ai un
86e choix.
86e, merci pour la correction.
Ouais.
On va parler de Kalen King, defensive back de Penn State. Et là encore, en termes de déception sur le papier, c'est assez immense. Nitti, on parlait d'un premier tour au départ, joueur qui n'a cessé un petit peu de décevoir. Qu'est-ce qui peut lui permettre de se mettre en évidence pour être sélectionné, notamment dans ce troisième tour, selon toi?
Oh bah tout simplement ses qualités athlétiques, hein, parce que on l'a déjà évoqué ensemble, hein, à la fin de la saison régulière en NFL, en parlant du Senior Bowl, pour l'intelligence de jeu et la couverture, je pense qu'on repassera. Mais c'est vraiment les qualités athlétiques qui peut, on va dire, faire de lui un bon joueur de rotation. Parce que clairement, hein, quand on sélectionne un troisième tour, il va pas, sauf concours de circonstances, être un titulaire dès la première semaine. Voilà. Sachant qu'en plus, à Houston, on a tout de même Darius Stingley Jr., on a Jeff Okuda qui vient d'arriver et qui doit relancer sa carrière, on a aussi Desmond King, on a signé CJ Anderson. Donc, Kalen King, s'il est sélectionné par Houston, c'est pas qu'il va. Alors, oui, il va devoir apprendre, mais il va devoir aussi progresser, il va devoir aussi être compétitif parce que la classe,
Le
le poste de
groupe
cornerback,
est
voilà, le groupe est plutôt homogène. Le groupe est plutôt homogène. Et donc, Kellen King, si jamais il n'arrive pas du côté de Penn State, du côté de Houston, ça m'étonnerait pas. Mais si jamais il y arrive, là, on va dire que hey, peut-être Demeke Oryans va en faire un joueur plutôt solide, voire même peut-être un joueur qui peut être un solide titulaire. Premièrement, peut-être au poste de nickel cornerback, et pourquoi pas le développer à l'extérieur.
Bah moi, j'ai même envie de te dire pourquoi pas en safety même. Parce que sur un groupe de defensive back qui est assez polyvalent sur le papier, tu citais Desmond King qui peut jouer quand même à beaucoup de positions. Un Jimmy Ward qui joue principalement en safety aujourd'hui, on sait que ça peut aussi être un couteau suisse sur le dernier rideau. Lonnie Johnson, dans sa carrière, ça a aussi été un petit peu baladé, on va dire, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc manifestement, on aime bien, du côté de Demeke Oryans, de brouiller les cartes pardon, pour le quarterback adverse. Donc en soi, avoir un safety corner, enfin un joueur en tout cas que tu peux essayer de, à qui tu peux essayer de trouver justement une place préférentielle dans ce groupe assez fourni, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et je trouve que Kalen King, justement, peut-être que ce poste de free safety va lui permettre de l'exposer un petit peu moins sur les duels en homme à homme. Parce que comme tu le disais, on est sur un joueur assez athlétique. Alors après, il y a toujours une question de lecture de l'attaque pour vraiment réussir à avoir ce temps d'avance, notamment sur le soutien en termes de protection, en termes de couverture, pardon.
Bien sûr,
Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est un joueur qui part avec un certain acquis physique et athlétique. Faut vraiment réussir à lui faire prendre conscience. Voilà, faut du QI foot. On va dire les choses très clairement. Il faut beaucoup plus de QI foot. Faut être beaucoup plus concerné. Mais je me dis que dans ce groupe-là, dans cette défense-là, avec en plus, encore une fois, on insiste là-dessus, mais une ligne défensive qui sera quand même assez imposante sur le papier, ça peut en tout cas lui permettre d'avoir un petit peu moins de pression. C'est pas dire qu'il en avait énormément du côté de Penn State, parce que défensivement, c'était assez solide quand même. Mais voilà, ça peut justement lui laisser un petit peu de temps pour trouver sa place, peut-être comme corner. Peut-être également comme safety, tu le disais, potentiellement tout simplement comme nickel dans un premier temps, pour être un petit peu dans un entre-deux. Mais vraiment, il y a quand même un talent, il y a quand même un potentiel indéniable sur lequel il serait dommage de ne pas capitaliser à la fin de ce troisième tour, surtout avec un groupe qui apparaît sur le papier assez profond à l'heure où on se parle. Tu voulais rajouter quelque chose ou on a fait le tour?
On a fait le tour hein, pour
Très
les
bien.
Texans, donc très bien. Et puis Kalenki, on en reparlera peut-être lors du week-end de la draft.
Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. On suivra ça de très très près. Mais en tout cas, merci à toi, Nité, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve de nouveau demain pour analyser. On parlait du départ de Stephon Diggs du côté de Houston. Ça tombe bien parce que demain, on parlera des Buffalo Bills. Savoir quelles sont les décisions à en tirer. D'ici là, passez une excellente journée. Restez bien connectés sur le site et sur les différents podcasts de Touchdown Actu. Salut à tous.